J'espère qu'on va vraiment partager un bon moment ensemble avec l'histoire de cette femme qui vivait dans un pays vraiment difficile et dans une période où les mœurs s'étaient vraiment dégradées, comme on va le voir, et qui s'appelle Rahab. Alors je vous propose qu'on lise d'emblée son histoire et après on va revenir dessus pour essayer de partager avec vous ce qui m'a personnellement encouragé. En quelques mots, ce qui m'a vraiment frappé dans cette histoire, c'est que Dieu prend en compte notre foi quand elle est mise en pratique, quand elle est active, et que Dieu veut nous donner vraiment un encouragement pour le salut de nos familles. C'est vraiment ce qui m'a touché. Alors, donc nous lisons dans Josué, au chapitre 2, au verset 1, l'histoire suivante. Donc je vais lire dans la version Semeur. De Sittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites était arrivé là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous ces hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha. Puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. » Mais dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pourrez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à la poursuite des espions sur le chemin qui mène au guet du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et de tous les habitants de la région, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi, par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite sur le mur même des remparts de la ville. Elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. » Vous voyez, un petit cordon rouge, c'était pas grand-chose, hein, à une fenêtre. Mais ça va être déterminant. Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle... En fait, faut que je l'attache. Sinon, je vais... Excusez-moi. Hop, voilà. Elle tient bien. Merci, 18. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous fais prononcer. Elle répondit, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Et voici ce qu'ils disent à Josué. « Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » Le texte est un peu long, mais je ne voyais pas comment... ne pas le lire, tellement il est touchant, tellement il est vivant, et surtout tellement cette histoire est surprenante. Rahab vit dans une ville qui s'appelle Jéricho. Cette ville est située dans le pays de Canaan. C'est ici. Je sais pas où je dois l'orienter en fait. Ah, alors. Est-ce qu'il est allumé? Youp. Il est activé. Donc, j'appuie pas comme il faut. Bouton de droite. Ah, ça marche mieux. Merci pour le mode d'emploi. Donc, Jéricho était une ville fortifiée avec 2 grandes murailles autour. Elle abrite un roi et une population qui sont très attachés à leurs coutumes et à leurs mœurs. Elle se situe donc dans le pays de Canaan. Sur la partie gauche de notre image, hein, avec tout un tas d'autres populations. Et ces gens sont prêts à défendre leur cité. S'ils ont si bien fortifié la ville, c'est qu'ils sont prêts à se battre. C'était d'ailleurs des hommes de forte stature et habitués à la guerre. Et vous voyez, à Jéricho, ils sont très fiers d'eux parce qu'ils jouissent d'une grande liberté morale, en particulier dans le domaine de la sexualité. Vous pouvez vous mettre en couple à peu près avec qui vous voulez, que ce soit votre mère, votre sœur, votre fille, même votre petite fille, ça gênerait personne. Vous pouvez aussi séduire une femme mariée. L'homosexualité est de mise, et même la zoophilie. J'ai toujours été surpris en lisant ça dans la Bible. La prostitution fait partie intégrante du culte voué aux différents dieux honorés dans la cité, en particulier au dieu Moloch. Et lorsqu'on veut vraiment prouver son attachement à ce dieu-là, eh bien on lui offre ce qu'on a de plus précieux, son enfant, ses propres enfants. Voilà où vit Rahab, voilà quelle est sa ville. C'est donc pas étonnant dans ce genre de cité de trouver une prostituée ayant pignon sur rue. Elle n'a pas besoin de dissimuler son commerce. C'est probablement comme une auberge dans laquelle il y a aussi ce genre d'activité. Josué, lui, si on veut voir, on a vu le lieu, on va voir maintenant les personnages. Josué, c'est le fils de Noun, il est le successeur de Moïse. Il a une mission précise, il doit faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Donc dans ce pays qui est sur la gauche de notre image, sur la rive droite du Jourdain. Il doit en prendre possession parce que cela correspond à une promesse que Dieu avait faite à Abraham, leur ancêtre. C'est donc non seulement un conducteur spirituel, mais aussi un commandant en chef, un chef de guerre. Il envoie 2 espions. Qui sont ces espions? Ce sont 2 garçons de famille où les parents ont douté de la promesse de Dieu qui avait été faite à Abraham, et ils ont refusé d'entrer dans ce fameux pays parce qu'ils avaient eu peur justement des Cananéens, à cause de leur grande stature, il y avait des géants, à cause de ces villes fortifiées, ils avaient eu peur et ils avaient refusé de passer le Jourdain et d'aller prendre possession de ce que Dieu leur avait promis. Du coup, pendant 38 ans, ils sont restés dans le désert. Et ces enfants-là, nos deux espions, qui étaient des jeunes enfants, enfin, ils avaient au plus 20 ans, eh bien, ils ont passé 38 ans dans le désert juste à cause de leurs parents, qui avaient refusé d'aller dans ce pays-là. Et maintenant, c'est à leur tour de relever le défi. Mais depuis 2 ans, Dieu les a vraiment encouragés. Parce qu'ils ont dû, pour venir jusqu'ici, ils venaient du désert qui était en dessous, ils ont dû traverser Édom, Moab, et là on les a laissés passer. Mais, enfin, ils ont dû payer leur eau et leur nourriture, quand même, en dédommagement. Mais après, quand ils ont voulu arriver dans cette région-là, le roi a refusé le passage. Et là, ils ont dû combattre, et Dieu leur a donné une victoire écrasante. Non seulement sur le roi Sion, mais aussi sur le roi Og. Et ça s'est su. Parce que non seulement ils ont eu la victoire, mais ils se sont installés là. Une partie d'Israël a décidé de s'installer là avec leurs troupeaux. Du coup, toute cette région-là qui est assurée est maintenant propriété d'Israël. Rahab, c'est difficile de savoir si c'était une prostituée par vocation, si ça peut exister, ou une prostituée sacrée, une prostituée esclave, on ne le sait pas. En tout cas, il y a ces deux espions qui viennent chez elle à l'improviste, et ils espéraient passer incognito. Leur but était de recueillir des informations sur l'état des troupes du roi de Jéricho, et il est probable que les soldats fréquentaient ce genre de lieu. Ce qui nous intéresse particulièrement concernant Rahab, c'est son attitude. Une question se pose, comment a-t-elle pu oser se mettre en danger à ce point en commettant un acte de haute trahison? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? N'est-ce pas? Parce que c'est en mentant aux soldats du roi et en les envoyant sur une fausse piste, enfin en faisant cela, pardon, elle les prive d'informations précieuses, ces espions. Ils savaient combien il y avait d'hommes, combien il y avait de quel type d'armes avaient les Juifs. Ils savaient comment ils allaient s'y prendre pour attaquer la ville. Donc c'était des gens qu'il fallait passer à la question, c'est-à-dire les torturer pour obtenir des informations. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? On frappe à sa porte, on lui dit « Il y a des espions chez toi, il faut que tu nous les livres. » Elle part, elle va les cacher. Et elle donne une fausse information. Je crois que c'est Rahab qui donne elle-même la réponse. Dans notre texte, nous avons lu, quand elle va voir, une fois qu'elle a fait partir les soldats sur une mauvaise piste, elle retourne voir les espions et elle leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. » Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et je relèverai ces deux expressions. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Et ça, elle le dit dans un contexte où tout le monde tremble. Tout le monde a peur dans Jéricho. Ils sont paniqués. Ils n'ont plus aucun courage. Leur cœur est défaillant. Pourquoi? Mettons-nous à leur place. Ils ont déjà combattu Og et Sion. Ils ont déjà croiser le fer avec eux. Ils savent très bien que c'était des rois puissants. Ils savaient très bien que leur armée était forte. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ces deux murailles autour de leur ville. Et voilà que ce peuple est arrivé. Ouit, ils ont balayé Sion et Og. C'est ce peuple qui est sorti de l'Égypte et qui a traversé la mer Rouge à sec. Et l'armée des Égyptiens a été noyée dans cette même mer. On comprend que le Jourdain est une bien faible barrière devant un peuple pareil, n'est-ce pas? C'est quand même pas aussi grand que la mer Rouge. Et ce qui interpelle, c'est que ils ont avec eux un Dieu qui est plus fort que le Dieu de l'Égypte, les dieux de l'Égypte, tous réunis, et même que les dieux de Sion et de Og. Et ce qui est étonnant, c'est que Rahab, elle n'a pas peur. Il y a deux espions qui sont chez elle, on vient frapper à sa porte, fait les sortir, et elle n'a pas peur. Elle va même les cacher, elle les traite en amis. Un peu comme si, tout à coup, elle découvrait qu'il y avait des amis qui étaient venus chez elle et qu'il fallait les protéger du roi. Moi, je pense que Rahab, ça fait longtemps qu'elle a compris. Ça fait longtemps qu'elle a compris deux choses. Elle a compris que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est le Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Elle reconnaît que c'est ce Dieu des Juifs qui est le seul vrai Dieu. Qu'est-ce qui l'a amené à croire cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est lassée de sa vie de misère? Est-ce que, à force d'être méprisée de tous, y compris de ses clients, elle est lassée de cette condition dans laquelle elle vit au quotidien, toujours à la merci des caprices de leurs idoles, qui à tout moment peuvent la séparer de ceux qu'elle aime, ses neveux, ses nièces, qui peuvent être offerts à Moloch ou à Baal? Elle fait une différence entre Moloch, Baal, Astarté et les autres dieux, et ce dieu des Juifs qui est capable de prendre soin de son peuple pour les arracher à l'esclavage de l'Égypte, les amener dans le désert, et depuis 38 ans ils vivent dans le désert, ils survivent dans le désert. Mais comment ils font? Ils ont été nourris spécialement? Oui, nous on le sait. Je sais pas si Rahab était au courant de la manne, mais nous on le sait. Ce dieu qui a une colonne de nuée pour les conduire, ça, il devait le savoir, parce que ça passe pas inaperçu. Et quand elle dit qu'ils savent comment qu'ils ont traversé la mer Rouge, elle sait aussi tout ça. Ce Dieu, il est à part. Ce Dieu si proche de son peuple, qui l'accompagne depuis 38 ans dans le désert, il est avec eux, il reste avec eux. Ce peuple est invincible, pas parce qu'il y a parce qu'ils ont des hommes particulièrement grands, courageux, mais parce qu'ils ont un Dieu particulier avec eux. Et Rahab, elle le comprend. Et elle le croit. Et elle se dit, ce Dieu, il est au-dessus de tous les dieux. C'est lui le vrai Dieu du ciel et de la terre. Il décide ce qu'il veut dans le ciel et il accomplit ce qu'il veut sur la terre. On ne sait pas exactement comment, mais elle a entendu parler de la promesse faite à Abraham, puisqu'elle dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Elle sait que Dieu a promis à ce peuple son pays, le pays de Canaan. Elle sait qu'il est destiné à Israël. Elle croit que ce Dieu-là, quand il promet quelque chose, il tient parole. Elle a compris ça. Elle croit qu'ils vont entrer en Canaan. Elle sait que ce pays va devenir leur propriété. Elle sait que Jéricho va tomber entre leurs mains, parce que Dieu leur a promis de leur donner ce pays, et parce que leur Dieu, c'est le Dieu des cieux et de la terre. Ça en dit long quand même sur Rahab. Elle accepte d'être jugée par Dieu. Elle accepte d'être jugée indigne de continuer à vivre dans cette ville, dans ce pays. Elle accepte que Dieu puisse juger les Cananéens au point de les condamner à mort. Ça veut dire qu'elle a conscience de la gravité des péchés de son peuple. Elle a conscience que son peuple mérite d'être mis à mort. Et en acceptant cette sentence de Dieu sur sa vie, je crois qu'elle a nourri une prière. Ce n'est pas dans le texte. Je ne l'ai lu nulle part. Mais on le comprend. Elle a dû prier « Oh Dieu, toi, Dieu des cieux, toi, Dieu des Juifs, qui sont juste à moins de 20 kilomètres derrière le Jourdain, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Elle voyait le jugement arriver. Il était derrière la rivière. Elle pensait à elle, elle pensait à sa famille, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs. Comment on va faire? C'est normal que Dieu nous juge, mais comment on va faire? Et je l'imagine dans sa maison en train de faire cette prière à Dieu, « Oh, aie pitié de moi !» Mais elle ne sait pas comment Dieu peut faire, puisque de toute façon c'est décidé, ce pays va être donné à Israël. Si bien que quand il y a ces deux espions qui rentrent chez elle, je crois qu'elle les probablement qu'elle n'a pas réalisé qui sont ces gens-là. Mais quand on vient frapper et qu'on dit « il y a deux espions chez toi », elle ne les voit pas comme des espions, mais elle les voit comme des messagers. Elle les voit comme des messagers, elle les voit comme des personnes avec qui elle va peut-être pouvoir faire une alliance. Et elle décide de les cacher. C'est impossible qu'elle réagisse si promptement, si rapidement, si elle n'avait pas déjà foi dans ce Dieu-là. Et en fait, c'est parce qu'elle avait foi dans ce Dieu d'Israël que quand les espions arrivent, tout de suite elle réagit. Et elle agit. Elle les cache. Et après, elle va les voir. Et elle dit « Maintenant, je veux faire une alliance avec vous. » Et vous voyez, c'est la différence entre Rahab et les autres citoyens de Jéricho. Parce que tous les habitants de Jéricho avaient connaissance des mêmes choses que Rahab. Ils savaient tous ce qui s'était passé en Égypte, la sortie, la traversée de la mer Rouge. Ils savaient ce qui s'était passé dans le désert. Ils savaient que c'est Israël qui était installé juste à côté. Ils avaient les mêmes informations. Mais les autres habitants n'ont pas voulu croire. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont refusé de se repentir. Ils n'ont cherché à aucun moment à faire la paix avec ce peuple. Ils n'ont pas du tout envoyé d'émissaires pour dire « On reconnaît que ce pays vous appartient puisque Dieu vous l'a donné et votre Dieu, c'est le Dieu des cieux. » Et nous, on est dans l'idolâtrie, on se repent de notre mode de vie et on accepte que Dieu nous juge. Pour le roi, ce sont des espions qui doivent périr. Pour Rahab, ce sont des messagers avec qui elle va peut-être, elle espère, trouver le moyen de faire une alliance parce qu'elle croit à leur Dieu. Elle croit qu'ils vont avoir le pays. Et finalement, elle veut participer à la vie de ce peuple pour connaître son Dieu. Je m'interroge sur... jusqu'à quel point nos contemporains sont conscients du jugement qui nous attend et qui les attend. Nous avons rappelé, en prenant la Sainte Cène, que nous prenons ce pain et ce vin en attendant son retour. Qu'est-ce qui va se passer à son retour? Nous, nous sommes heureux parce qu'il va nous emmener avec lui. Mais à son retour, le Seigneur Jésus va être contraint de juger nos contemporains. Qu'est-ce qui différencie notre société française de Jéricho? Je trouve que bien des enfants sont sacrifiés au pouvoir des écrans, de la télévision ou de leur portable, au bénéfice de leurs parents qui cherchent plus d'aisance matérielle ou leur épanouissement personnel à travers je ne sais quel sport ou activité. Je suis pas en train de porter un jugement, mais je constate... Je sais pas, ça nous choque qu'on offre des enfants en sacrifice à des idoles. Mais quand on abandonne nos enfants entre les mains de ce que cette société propose, je sais pas si c'est pas une façon de les sacrifier. Plutôt que de prendre du temps avec eux, de les amener sur le chemin de la foi, de les enseigner, de prendre du temps pour qu'ils sentent notre amour et l'amour de Dieu pour eux. Il me semble que nos mœurs diffèrent de moins en moins de ce que pouvait observer Rahab autour d'elle. J'ai fini par faire une recherche sur zoophilie en 2020. J'ai été choqué. En France, en ce moment, il y a 10 000 personnes qui sont actives sur des sites de rencontres zoophiles. Chaque mois, les sites spécialisés dans la zoopornographie, je ne savais même pas que ça existait, comptent 1,5 million de visiteurs chaque mois. Alors jusqu'où Dieu nous laissera-t-il nous égarer? Ne devons-nous pas avertir nos contemporains de l'imminence d'un jugement, de la nécessité de nous repentir? Revenons à Rahab. Elle veut faire alliance avec ses hommes, et pas pour elle seulement, mais aussi pour toute sa famille. Elle leur demande « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, et que tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Vous voyez, elle était consciente que c'était une mise à mort, que c'était un jugement qui devait tomber sur eux. Et elle demande à ce qu'il y ait une alliance entre elle et ses hommes, entre elle et sa famille et ses hommes. Et elle plaide, elle intercède pour sa famille. Et elle veut qu'il y ait quelque chose qui lui donne une certitude que sa famille sera à l'abri. Et alors, je trouve merveilleux que, je sais pas, si ça faisait partie de leurs vêtements, assez, pourtant, un rouge comme ça, c'est pas très discret pour des espions, mais il avait ça sur lui, un des deux, et il lui dit, bah, écoute, tu attacheras ça à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et ce sera le signe par lequel on reconnaîtra ta maison, et, tous ceux qui seront dans ta maison ne craindront rien. Ils seront à l'abri. Le jugement ne les atteindra pas, en quelque sorte. Et vous avez remarqué, il ne fallait pas sortir de la pièce où il y avait ce cordon attaché. Et Rahab, dans un élan de foi, elle l'attache tout de suite. Et à peine ils sont partis, elle attache la corde, parce qu'elle ne sait pas quand ils vont arriver, mais elle sait qu'ils vont arriver. Et je ne sais pas comment elle s'y est prise. Mais elle allait voir ses parents, elle allait voir ses sœurs, elle allait voir ses frères, et elle leur a témoigné de sa foi. Il a bien fallu qu'elle leur en parle. Elle avait promis aux espions de ne pas divulguer au roi, et voilà, ceux qui voulaient du mal aux espions, mais il a fallu qu'elle aille témoigner à sa famille. Elle a dû leur dire, écoutez, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai découvert. Le Dieu des Juifs, c'est le seul vrai Dieu, c'est le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui qui exerce ses jugements, et il va venir, et il va nous juger. Mais venez à l'abri, venez chez moi. Il y a un petit cordon rouge, c'est le signe. C'est le signe qui montre que vous êtes à, que cette maison, là où il y a ce cordon rouge, ceux qui sont dedans échapperont au jugement. Il a peut-être fallu les convaincre. Heureusement, elle a réussi. Ça n'a pas été comme avec Lot. Vous vous souvenez, Lot? On a cru qu'il plaisantait. Et du coup, il n'a pas pu sauver quiconque de Sodome et Gomorre, si ce n'est sa femme qui l'a suivi, mais qui, en regrettant, s'est transformée en statue de sel, et ses filles qui, malheureusement, commettront encore des choses assez horribles pour avoir une descendance. Mais là, pour Rahab, sa famille l'écoute. Les siens viennent dans sa maison. Quelques semaines plus tard, eh bien, l'armée d'Israël arrive et elle fait silencieusement le tour de la ville. Mais ils ne font pas qu'un jour, ils le font 6 jours. Et ils repartent. Ils repartent chez eux. Vous imaginez, pendant une semaine, vous êtes chez votre sœur ou votre fille, et puis elle vous dit, non, mais bougez pas, restez là. Bougez pas. C'est ici qu'il faut être, derrière le fil. Leur vie, elle ne tient qu'à un fil, n'est-ce pas? C'était. Et le 7e jour, ça recommence. Mais cette fois, 1 tour, 2 tours, 3 tours. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'on en finisse! Et peut-être bien que dans la famille de Rahab, il y a des gens qui avaient envie de sortir de quitter la pièce. Il dit, mais nous, on est au premier rang, si on se fait attaquer, le moment où ils vont passer à l'assaut, on est sur la muraille. On ferait mieux d'aller dans la tour centrale. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas les espions qui ont protégé Rahab. Ils savaient même pas ce qu'ils disaient vraiment, les espions. Quand ils disaient, vous restez bien dans la maison, sur la muraille. Ils savaient pas que Dieu allait faire effondrer toutes les murailles de Jéricho. Ça, ils étaient pas au courant. Mais Dieu, oui. Et quand il leur a inspiré de faire cette alliance, ils savaient ce qu'il allait faire. Et vous voyez, il y a deux miracles dans Jéricho. Le premier miracle, c'est que les Juifs qui ont fait le tour, ils ont vu les murailles s'effondrer en réponse à leur foi. Et le deuxième miracle, c'est que la muraille, la partie où il y avait la maison de Rahab, elle ne s'est pas effondrée en réponse à la foi de Rahab. Et ça, c'est merveilleux. Parce que finalement, Dieu nous demande d'avoir une foi agissante, et il voit quand notre foi est agissante, et il en tire les conséquences, et il agit en conséquence. Rahab avait mis ce petit cordon, et elle savait pas du tout de quoi ça parlait. Mais elle avait eu confiance dans ses messagers, elle avait eu confiance dans leurs paroles. C'était simplement une promesse, et elle s'est basée sur cette promesse. Peut-être les espions, ils avaient entendu leurs parents parler d'un autre signe qui était mis sur une porte cette fois, pas sur une fenêtre. C'était le sang d'un agneau qui avait été offert en sacrifice au moment où les Juifs ont quitté l'Égypte. Une façon d'épargner leur premier-né, parce que Dieu allait juger tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Et pour épargner le premier-né de chaque famille juive, il fallait mettre du sang sur le linteau de la porte. Et toute personne qui était dans la maison où il y avait du sang sur le linteau de la porte était épargnée. Eh bien, c'est exactement le même symbole. Qu'est-ce qui a permis à Rahab d'être épargnée, d'échapper au jugement? C'est ce filet rouge, ce fil rouge qui parle de ce filet de sang qui coulera bien plus tard du cœur de Jésus. C'est ce filet de sang qui seul peut effacer ses péchés. C'est le sang de Jésus, c'était une préfiguration de ce qui se passerait plusieurs siècles plus tard. Jésus qui couvre Rahab de son sang, qui la purifie, et qui fait que parce qu'elle a mis sa confiance dans ce Dieu des cieux, ce Dieu de la terre, en rejetant toutes ses idoles, en renonçant à toutes les mœurs dépravées de son peuple, en renonçant à sa propre vie, en reconnaissant que Dieu est juste en la condamnant, elle a été mise au bénéfice du sacrifice de Jésus par avance. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'elle a pu entraîner sa famille dans ce salut. Et ça m'encourage, et j'aimerais vraiment vous encourager, parce que la famille a été placée sous le cordon, on pourrait dire. Nous pouvons prier pour nos familles, les placer pas sous un cordon, mais sous le cordon du sang de Christ. Nous pouvons vraiment insister auprès de Dieu, plaider avec lui, comme Rahab a plaidé, pour que Dieu sauve nos familles. Quant à Rahab, elle a été non seulement sauvée, mais elle a été relevée. Elle a été, elle a été élevée. De prostituée, elle est devenue un membre du peuple d'Israël. Elle a épousé un homme qui lui a été fidèle, un homme avec qui elle a pu construire une famille. Et de cette famille, de cette union, il y a eu un homme qui s'appelle Boaz. Et on a l'histoire de Boaz, qui est un homme de bienveillant, un homme plein de bonté, qui prendra soin d'une femme qui s'appelle Ruth, elle aussi une étrangère. Mais vous voyez la différence de vie. Rahab avant le petit cordon rouge, et Rahab après, Rahab qui met sa foi en œuvre en cachant deux espions, mais qu'elle voit comme des messagers, parce qu'elle avait foi en Dieu, elle a mis sa foi en œuvre en les cachant. C'est ce que Jacques nous dit. Il nous dit, voyez, Rahab, elle est sauvée par ses œuvres, parce qu'elle a caché les espions, Alors vous allez me dire, mais elle a caché ses œuvres, elle a dit un mensonge et elle a trahi. Bon, ben, c'est bon, on peut mentir, on peut trahir. Non, son œuvre, ça a été de cacher ses espions. C'est parce qu'elle avait foi dans leur Dieu. Et elle s'est dit, mais moi, je veux être de leur peuple. Je veux être dans le pays de Canaan, et avec eux. Et c'est normal que Dieu nous juge. Notre foi, nous devons la mettre en œuvre. Elle doit être mise en pratique. Et c'est ça qui va aussi parler à nos familles, à nos amis. S'ils voient que quand Dieu dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », bien, nous apprenons à le faire. Quand Dieu nous demande de pardonner et que nous pardonnons et qu'il nous voit le faire, ça les touche. Quand nous sommes honnêtes dans notre tenue de compte vis-à-vis des impôts, ça les touche aussi. Et aussi, il faut leur parler. Il faut vraiment prier pour nos familles, il faut leur parler. Et quant à nos concitoyens, il y a de l'espoir pour eux aussi. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Rahabs à Villefranche, à Pommiers. Il y a des Rahabs. Nous ne les connaissons pas. Mais Dieu veut aussi nous envoyer. Alors, excusez-moi, parce que là, je vais peut-être amener une confusion, mais on est aussi, nous, comme des messagers, n'est-ce pas? On est aussi envoyés par Dieu pour favoriser cette alliance avec le sang de Jésus. Il nous demande d'aller vers nos compatriotes sans les juger, sans les rejeter. Les espions auraient pu dire, mais attends, t'es une prostituée. Tu veux qu'on fasse quoi avec toi? La première à devoir être jugée, c'est bien toi. Tu nous sauves la vie et puis après tu nous demandes par intérêt qu'on te sauve la vie. Non, bah, Dieu il aurait pu nous sauver sans toi. Hein. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et ça montre la grâce de Dieu. Peut-être quelqu'un d'entre nous est tombé très bas. Peut-être quelqu'un dans notre entourage est tombé très bas. Nos prostitutions, elles sont multiples, en particulier sur le plan spirituel, mais parfois aussi dans nos actes, nous sommes tombés très bas. Mais au plus bas que on n'est plus tombé, la grâce de Dieu, elle coule encore à cet endroit-là. Il n'y a pas de lieu où la grâce de Dieu ne puisse pas couler. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et que le Seigneur nous encourage par... Cet exemple de Rahab, à la fois à avoir une foi pratique comme elle a eu, active, à prier pour nos familles. J'avais prévu de vous faire circuler une petite pelote de laine, comme ça vous pouvez couper un petit bout de fil et elle sera à la sortie si vous voulez. Je vais avoir pas mal de choses collées dans ma Bible. Et puis comme ça, vous pouvez la coller dans votre Bible, d'accord? J'ai déjà la petite graine de moutarde, mais ça c'est pour ceux qui... Mais vous pouvez la coller dans votre Bible ou dans votre carnet de prière. La pelote sera à votre disposition sur la table. Et simplement pour, si jamais vous oubliez, eh bien pour ne plus oublier de prier pour votre famille.